Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagémo à voix haute, épisode du 11 mai 2025. Aujourd'hui, en seconde partie d'émission à Dis-moi ce que tu lis, je reçois Julie Bernier, enseignante en sixième année à l'École internationale Wilfrid Pelletier, et trois de ses élèves, Laetitia Kial, Sonia Bouraoui et François Chevalier. C'est Sarah Degons qui assure la tribune littéraire de grandes personnes, et on terminera avec quelques événements littéraires qui se vivent tout près de chez vous ou un peu plus loin avec les actualités littéraires. Mais d'abord, en première partie, dans les coulisses du livre, je reçois Pénélope Jolicoeur, créatrice aux multiples chapeaux, et Marie-Josée Gontier, du Liseur public, nous présente ses coups de cœur de lectrice. Encore une fois, vraiment tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse.
Je m'appelle James et j'ai 11 ans et j'aime les livres qui parlent de géographie parce que ça m'apprend plein de choses sur le monde où on vit actuellement.
Je m'appelle Danick et j'ai 10 ans et j'aime lire parce que j'aime l'action et j'aime apprendre des choses sur l'informatique et les informations sur l'auteur et l'autrice.
Dans les coulisses du livre.
Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Je reçois maintenant avec grand plaisir Pénélope Jolicoeur, autrice, éditrice, relationniste, une créatrice aux multiples chapeaux. Bonjour Pénélope.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien, ça va très bien. Toi aussi?
Ben oui, absolument.
Alors, bienvenue à Imagémo à voix haute. Pénélope, on t'attrape sur la route. T'es en chemin vers le Salon du livre de Bonaventure en Gaspésie. Comment ça va le voyage aujourd'hui?
Ça va très bien. Belle température, fait beau, fait soleil. J'ai des bonnes copilotes avec moi. Tout est sous contrôle.
Bon, c'est bon. Puis les bonnes copilotes sont-tu à l'écoute?
Non, elles sont parties
se
voir
dégourdir.
S'il y avait de la poutine à manger.
Ah, c'est bon, c'est une bonne idée, ça. C'est excellent. Et tu y vas avec lequel de tes chapeaux à ce Salon du livre de Bonaventure?
Avec pas mal tous mes chapeaux, en fait, j'y vais pour ma maison d'édition Hurlante éditrice. Mm-hmm. J'y vais comme autrice pour mes livres chez Boomerang éditeur jeunesse. Oui. J'y vais également comme animatrice de table ronde, d'activités. J'anime aussi la soirée cabaret du vendredi soir. Donc, oui. J'y vais avec pas mal tous mes chapeaux.
Ah, là. C'est bon. Alors, on souhaite que ça se passe bien. Je te présente aux auditeurs et aux auditrices. Pénélope, t'es née à Québec. Tu t'es établie en 2002 à Montréal, au début de la vingtaine, et tu as complété des études de droit, tu as débuté une courte carrière de notaire que tu as quittée assez rapidement et définitivement. Et par la suite, on peut dire que tu poursuis trois carrières, souvent en parallèle. D'abord dans le monde du théâtre, du cinéma, du spectacle, puis ensuite dans le milieu du livre. Et enfin, comme créatrice littéraire, qu'est-ce qui t'a fait passer du domaine juridique au monde culturel et littéraire, Pénélope?
Bien, en fait, moi, le monde culturel et littéraire m'a toujours intéressée. Ça aurait été mon choix de carrière numéro un, mais ouais. Bon, j'ai fait des études en droit. Mes parents trouvaient que c'était plus solide pour la vie. Donc, j'ai écouté, j'ai fait un bac en droit, une maîtrise en droit des technologies de l'information, une maîtrise, un diplôme d'études supérieures en droit notarial. J'ai été notaire un petit bout de temps et j'ai tout haï. Fait que je suis retournée à mes premières amours.
Ah. D'accord, c'est le choix d'être heureuse finalement.
Oui, absolument. Oui.
Dans le collectif et le recueil de témoignages signés par 9 autrices, des comédiennes, des humoristes, c'est dirigé par Pierre Bourdon et ça s'appelle « Dans les yeux de mon père ». C'est publié chez Hugo Doc. Chacune raconte son père. Puis toi, tu publies un texte très, très touchant à propos du tien de père. Tu y racontes que tu as longtemps cru que ton père était une rockstar, que tu as craint de décevoir tes parents dans tes choix de carrière, et qu'ils ont voulu faire de toi quelqu'un d'exceptionnel. C'est quoi les parallèles qu'on peut faire entre ta vie à toi et celle de Léa, le personnage principal de ton livre « Rêve ou raison » de la série « Nuances » qui est publiée chez Boomerang?
Ben, c'est vraiment très inspiré de mon adolescence, de des choix que j'ai dû faire pour mon cégep. En fait, moi, je voulais, j'aurais aimé ça, aller faire mon cours pour devenir comédienne ou aller en littérature, tout ça. Mais bon, chez nous, c'était vraiment un peu plus strict. Puis, ils voulaient absolument que je fasse des grandes études. Mmh. Donc, Rêve ou raison est écrit d'une façon que le lecteur ou la lectrice va faire un choix, en fait. Ouais. Le personnage doit faire un choix et le lecteur ou la lectrice va faire le choix pour le personnage. Et il y a deux fins différentes. Donc, on décide si on poursuit les grandes études ou si on va à l'école de théâtre dans le choix de Léa. Ouais. Donc, c'est un peu ce que moi, j'ai dû faire. J'ai pas choisi l'école de théâtre, mais Léa a une chance sur deux de choisir.
Oui, c'est ça. Elle a cette chance-là. C'est ça, hein? Oui.
Oui, tout à fait.
Bien, c'est un roman qui s'adresse aux adolescents, aux adolescentes. Puis sur la quatrième de couverture, on peut lire que c'est un roman féministe, revendicateur, qui explore l'affirmation de soi, les tensions familiales, l'importance de l'amitié, l'honnêteté et l'authenticité. Puis tu en as parlé, c'est vraiment une structure intéressante parce que après une centaine de pages où tu racontes l'histoire de Léa puis ses hésitations entre les deux choix d'orientation au cégep, les lecteurs choisissent donc pour Léa soit suivre son rêve en allant à l'école de théâtre, poursuivre une carrière de comédienne, ou bien suivre la voie de sa raison en allant au cégep près de chez elle, en choisissant un domaine d'études qui va lui apporter la sécurité. Comment tu trouves ça, toi? Donc, cette structure, elle est dans tous les livres de la collection Nuances, tu me faisais remarquer ça. Comment tu composes avec ce genre de contraintes littéraires?
Moi, j'adore écrire avec des contraintes. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est le premier roman pour adolescents que j'ai écrit. À l'époque, c'était Caroline Lafrance, une de mes amies qui était directrice de cette collection-là chez Boomerang. Elle m'avait approchée, puis elle connaissait bien ma vie. Puis elle m'avait dit, il me semble que ça ferait un bon Nuance dans cette collection-là, parce qu'il y a eu beaucoup de thématiques. Il y en a une qui fait de l'anxiété de performance. Donc, est-ce qu'elle continue de faire de la compétition, même si ça la rend vraiment malade et pas bien? Ou si elle va que dans quelque chose d'un peu plus smooth. Il y en a une autre, elle tombe enceinte. Est-ce qu'elle avorte? Est-ce qu'elle garde le bébé? Donc, c'est vraiment comme des thématiques qui sont chères aux adolescents ou aux adolescentes. Et c'est ça, elle trouvait que j'avais une histoire qui pouvait tout à fait fitter dans la collection Nuances. Je me disais, pourquoi pas?
Oui.
J'ai adoré ça de faire ces espèces de deux fins-là et de les écrire sur la même ligne du temps, tu sais, parce que j'ai vraiment pris les univers parallèles. Donc, si elle prend certaines décisions, mais ça va influencer les gens autour d'elle, son ami, et ainsi de suite. Donc, toutes les décisions que le personnage prend ont des influences sur les autres personnages et ce qui l'entoure. Puis ce qui est le fun dans la collection Nuance, c'est qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise fin.
Non, c'est ça. Les deux sont plausibles, intéressantes et pertinentes.
Ouais. Ben, c'est ça, exactement. J'avais jasé avec un de mes amis du secondaire qui l'avait lu quand il est sorti. Puis il m'a dit quelque chose de très pertinent. Il m'a dit, j'aurais aimé ça que cette collection-là existe quand j'étais ado parce que je n'étais pas capable de faire des choix. J'avais toujours l'impression qu'il y avait un bon choix puis un mauvais choix.
Ouais.
Alors que dans toutes les situations, tu sais, je prends seulement, mettons l'exemple de la fille qui tombe enceinte, elle décide de le garder, elle découvre c'est quoi avoir être une mère, l'amour inconditionnel, etc., etc. Mais elle va rencontrer des difficultés là, avec le fait d'être une mère adolescente versus l'avortement qui est quand même un trauma, qui est quand même...
Ouais.
Donc, il n'y a rien de positif, de négatif, c'est juste la vie qui se poursuit et d'autres choix vont être à faire par la suite parce que c'est ça la vie,
Ça ressemble vraiment. C'est vraiment ça la vraie vie, Toi, Pénélope, quel genre de lectrice t'étais enfant puis adolescente?
Je le disais beaucoup. Je le disais beaucoup. J'étais à cette époque-là, c'est toutes les Courte-Échelle, les romans de Robert Soulière qui étaient à l'époque. J'ai oublié le nom de l'éditeur, mais bon, c'était un gros
éditeur. C'était pas Soulière éditeur.
C'était avant ça. C'était les anciens.
Et moi, je le sais pas non plus. Alors, on cherchera ça.
C'est une collection rouge. En tout cas, il y avait Le Don aussi là-dedans. Il y avait plein de livres. Je lisais beaucoup. Je lisais vraiment beaucoup. Ouais.
Par plaisir.
Pas très BD, là, mais beaucoup plus des romans. Je lisais beaucoup.
Oui. Tu as écrit aussi la trilogie pour 14 ans et plus, Maléfice, c'est édité chez Boomerang. Le tome 1, L'envoûtement. Le tome 2, La disparition. Le tome 3, L'affrontement. C'est une histoire qui met en vedette trois adolescentes, Iris, Mia et Zoé, leur famille, leurs secrets et la ville de Ravenwood, où, là, je cite l'éditeur, la sorcellerie côtoie les sortilèges afin de faire triompher le bien du mal. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette série qui est vraiment pour les plus vieux, hein?
Oui, c'est une série, le fantastique côtoie l'horreur, je dirais.
Oui.
On part assez smooth le premier tome, mais plus ça va, plus on tombe dans l'horreur. C'est vraiment une série qui est très inspirée de ce que les jeunes écoutent, tout ce qui est sur Netflix. On pense à Sabrina, on pense à Stranger Things.
Oui.
Donc, c'est très, c'est écrit sur un modèle très américain de série, donc un cliffhanger à la fin de chaque chapitre, etc., etc.
Ouais.
Donc, c'est vraiment, c'est de l'horreur. Il y a beaucoup de rebondissements, mais c'est encore une fois une histoire d'amitié. Moi, c'est une thématique qui revient
oui.
dans mes livres.
Ouais. Oui, oui.
L'amitié, c'est très important. C'est la famille qu'on choisit, en fait, nos amis. Donc, puis c'est à l'adolescence, c'est très formateur. Souvent, on se détache un peu plus de nos parents, je pense, à cette époque-là. Mm-hmm. Puis c'est plus nos amis qui vont avoir une influence sur nous. Donc, l'amitié est vraiment centrale là, dans la littérature que j'écris.
Oui. Est-ce qu'il y a un groupe d'âge ou un groupe de lecteurs, de lectrices pour lequel tu préfères écrire?
J'aime bien écrire pour les ados. Ouais. Parce que c'est... Quand tu es adolescent, on dirait que toutes les émotions sont à 100%. Il y a quelque chose de mal qui arrive, c'est la pire journée de ta vie. La première peine d'amour, c'est épouvantable.
C'est intense.
Tout est intense, tout est vécu intensément. Il y a des choses qui sont vécues pour les premières fois. On dirait que tout ça, c'est un terrain de jeu qui est extraordinaire pour un auteur parce qu'on y va à 100%, on n'a pas à se censurer dans l'émotion, on y va. J'aime beaucoup écrire pour ce public-là. C'est sûr que j'écris aussi pour les plus jeunes des documentaires.
Ouais.
Je suis en train d'écrire un roman pour adultes aussi. Donc, j'aime varier les publics, mais c'est sûr que le public adolescent a ça d'intéressant.
C'est une belle tale. Est-ce que tu écrirais de la fiction pour les plus petits, les plus jeunes lecteurs?
Peut-être, mais je pense que je serais moins à l'aise. Je serais moins... j'ai pas... en vrai, je suis pas... j'aurais pas d'idée. Un jour, j'aurais une idée, mais pour l'instant, je n'en ai pas pour ce groupe d'âge-là.
OK, mais c'est bien important d'avoir des idées. Là, ça prend un filon, effectivement. T'en parlais tantôt, plus récemment, t'as contribué à la collection de documentaires Parlons-en. C'est édité par Mega, avec Joliane Roy et Jacqueline Cruz. Il y en a deux jusqu'à maintenant. Une sur des mathématiques, l'autre sur les inventions québécoises et canadiennes. Puis il y a un autre documentaire sur la musique cette fois-là. Ça, c'est paru, c'est tout récent, le 28 avril, dans la collection Mégadoc. Et il s'adresse à qui, ces livres?
Ça, c'est pour les plus jeunes, je dirais 8, 9 ans, 7, 8, 9, 10 ans. Mais c'est sûr que les inventions québécoises et canadiennes, moi, j'ai beaucoup d'écho. C'est un livre qui a été vraiment trippant à écrire. Moi, j'ai appris immensément à faire la recherche sur ce livre-là.
C'est hyper utile.
Vraiment.
Ouais.
On a tellement d'inventions que, ben, en tout cas, je ne savais pas. La moitié des affaires là-dedans, je ne savais pas que ça venait d'ici.
Non, c'est ça.
J'ai vraiment été surprise. On apprend beaucoup. Puis même les plus vieux, ils aiment beaucoup cette série-là. C'est très bien illustré. C'est vraiment des beaux livres, des grands livres. C'est un beau format. C'est cartonné. C'est le fun à tenir en main. Fait que je sais que lui, il est très apprécié. Là, le Mégadoc musique. Puis je mets toujours une saveur aussi québécoise-canadienne dans les documentaires parce qu'il y a tellement de documentaires faits ailleurs. Si on en fait un au Québec, c'est le fun qu'il y ait des références québécoises.
C'est ça. C'est ce que j'allais dire pour les références. C'est précieux,
Oui. Fait que là, la musique, là, je m'y suis donnée à fond. Il y a des références québécoises mur à mur. Pour justement que les jeunes, Beyoncé existe, mais il y a plein d'autres choses qui existent au Québec.
Ça, tout à fait. Pénélope, dans le milieu du livre, tu as travaillé comme libraire, ensuite dans les salons du livre, pour Communication Jeunesse aussi, où tu as été directrice générale. Tu as été pigiste, puis comme beaucoup d'autres, tu as travaillé et tu as beaucoup œuvré en relations de presse. Tu as fondé ta propre maison d'édition, Hurlante Éditrice, en novembre 2019. Vous publiez une dizaine de titres par an. Pourquoi fonder une maison d'édition, Pénélope? C'est pas pour les ados, c'est pas pour les jeunes, c'est pour les adultes davantage.
Oui, exact. On fait pas de littérature jeunesse. Pourquoi fonder une maison d'édition? Quelle bonne question, par folie. c'est pas, euh, je dirais que pour l'instant, c'est un loisir créatif. Il y a des gens qui font du scrapbooking. Moi, je publie de la poésie. Mais je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait cet espace-là qui pouvait être comblé dans la littérature. Si au départ, c'était un peu un projet que j'avais lancé avec une de mes amies qui est plus dans la compagnie depuis, on avait sorti... notre premier titre, là, qui est en arrêt de com' depuis, qui est une espèce de fanzine parodie d'Almanach du peuple. On avait fait appel à 20 auteurs, autrices pour écrire sur différents sujets, tout ça. Ça avait un look très fanzine assumé. Par la suite, on a reçu des recueils de poésie. On s'est un peu plus dirigé vers ça. Avec quand les éditions de l'Écrou, en fait, ont annoncé leur fermeture, la nature n'a pas peur du vide et aime le combler. Donc, je me suis...
C'est là, c'est là. Non, c'est bon.
Ouais, je me suis donné comme une espèce de mission de continuer ce que les éditions de l'Écrou faisaient à ma manière, bien entendu, en faisant aussi du roman, de l'essai, puis en publiant du théâtre. Mais
tant mieux pour eux. Tant mieux pour la poésie, c'est bon.
Ben, c'est une mission, hein, publier de la poésie au Québec. Oui. On se met pas riche avec ça, mais c'est des gens que pour qui j'avais un immense respect, qui ont changé ma façon de voir la littérature aussi, les éditions des coups. Donc, pour moi, c'était important de reprendre cette espèce de flambeau-là, là, du moins essayer à ma manière.
On salue les fondateurs de cette maison d'édition-là, notamment... celui qui est décédé récemment.
Oui, Jean-Sébastien Larouche.
Tout à fait. Je voudrais pas passer sous silence ton expérience de comédienne, Pénélope, parce que ça te permet d'être particulièrement efficace comme lectrice de livres audio. Tu as lu, entre autres, des livres d'Audrey Archambault qu'on a eu le plaisir de recevoir à Images et mots. Qu'est-ce que tu apprécies dans la lecture de livres audio?
Ah, ben ce que j'appréciais, on devrait le dire au passé, malheureusement, il n'y a plus de subventions depuis à peu près 2-3 ans. Il y a eu des subventions assez importantes. La part, je pense que c'est le Fonds du livre du Canada qui subventionnait la production des livres audio au Québec. On est passé d'une industrie foisonnante à quelque chose de très moribond. Malheureusement, on ne travaille plus là-dedans, personne ou à peu près. Il n'y a plus de budget pour ça.
Non, c'est pas ça qui nous fait gagner notre vie.
Mais non, c'est ça. Donc, on est pas en train de parler présentement entre l'Union des artistes et certains studios pour des modélisations de voix, intelligence artificielle et tout ça. C'est vers ça qu'on s'enligne, malheureusement.
Ben oui, malheureusement.
J'adorais lire des livres audio. C'était dans mes contrats préférés annuellement. J'aime ça lire à voix haute. J'aime ça donner de la couleur à des personnages. Surtout en jeunesse, je lisais beaucoup de livres audio jeunesse. J'ai une voix qui cadre avec cette littérature-là. J'ai lu des albums, j'ai lu des romans pour les plus petits, les plus grands. J'ai lu de la littérature adulte aussi. J'en ai vraiment fait beaucoup. C'est quelque chose qui me manque énormément, mais que je ne pense pas qu'il va revenir un jour.
On va le souhaiter. On va le souhaiter. Pénélope, il nous reste environ une minute. Ça passe tellement vite. C'est la tradition à Images et mots à voix haute. On demande aux invités de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraire jeunesse. Est-ce que tu as une suggestion pour nous?
Oui, j'en ai une. J'ai été éditrice sur le projet. C'est un livre que j'ai adoré travailler. Le texte est beau, les images sont extraordinaires. C'est Un matin dans mon univers de Marjolaine Beauchamp, illustré par Virginie Hégère. C'est l'histoire, c'est le quotidien d'un jeune enfant polyhandicapé. Et on rentre jamais dans le pathos. C'est vraiment une belle histoire lumineuse. Importante, belle, poétique. Donc, c'est mon gros coup de cœur. En jeunesse, c'est un album.
Cœur partagé, puis c'est un livre que je viens de lire à Marie Raconte. Puis il est encore disponible pour quelques jours encore là, pour consultation en ligne. Merci, Pénélope Jolicoeur. Merci pour cette rencontre-là. Merci pour ton sens de l'humour, pour ton humanité, pour les mots, les thèmes que tu proposes et qui touchent les jeunes qui te lisent. Au plaisir de te lire encore. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.
Bonne journée.
Je m'appelle Juliane, j'ai 11 ans. J'aime lire des livres de Kazuki Bushi parce que c'est une série de BD avec beaucoup d'aventures et de suspense.
Coup de cœur de lectrice.
Bonjour, Marie-Josée Gontier.
Bonjour Marie.
Marie-Josée, vous êtes lectrice, animatrice du Liseur public. C'est un projet de lecture ambulante offert pour les événements, les organismes. Il s'agit d'un projet du Carrefour Jeunesse Emploi Hochelaga Maisonneuve. Et vous créez des interventions, des ateliers pour redonner le goût de lire, principalement aux 16-35 ans. Vos lecteurs bénévoles se faufilent dans les événements pour offrir des courtes lectures ludiques, créatives et spontanées. Et aujourd'hui, vous avez la gentillesse de nous parler de quelques-uns de vos coups de cœur de lectrice. On vous écoute, Marie-Josée.
Merci beaucoup pour l'invitation, Marie. C'est vraiment apprécié. Aujourd'hui, je suis allée dans la variété pour les trois titres que j'avais le goût de vous présenter. Mm-hmm. Parce que l'idée, pour donner goût de la lecture, il faut un éventail de possibilités, plusieurs genres différents. Donc, je commence tout de suite avec Le Collectif. C'est un recueil de nouvelles 15, paru chez Loméac Jeunesse au mois de mars. Ça a été un bonheur de lecture et aussi un bonheur d'animation testé sur le terrain dans les dernières semaines, autant avec des classes de secondaire 5 que aussi des brigades de liseurs publics l'ont utilisé lors du dernier Salon du livre à Québec. Mmh. Donc, c'est un livre vraiment testé et approuvé, pour être honnête. Avec le recueil de nouvelles 15, c'est Loméac Jeunesse qui a fait paraître ce bijou pour souligner ses 15 ans d'existence. Donc, on est avec 13 auteurs et autrices qui ont déjà publié des livres par le passé depuis leur début en 2010 à la collection Jeunesse. Mm-hmm. Et là, on est avec 15. Il y a bien sûr la thématique adolescence, comme Loméac Jeunesse fait toujours, mais aussi les auteurs, autrices en vedette ont eu la contrainte du chiffre 15. Donc, ça devait être inclus dans chacun de leurs textes. Et aussi, on a vraiment des plumes qui ont marqué et aussi qui écrivent parfois jeunesse et parfois adulte. Donc, autant Jonathan Bécotte, Gabriel Delamère, Simon Boulris qui se passe de présentation, mmh. Christine Bertrand, André Marteroy, Jean-François Sénéchal. Donc, c'est vraiment la force de Loméac Jeunesse, c'est la diversité des sujets abordés. On est encore avec ça par rapport à 15. C'est vraiment des sujets forts qui sont mis de l'avant dans ce collectif. Et aussi, la beauté d'un recueil de nouvelles, c'est court à lire, on rencontre ouais. les auteurs, autrices. Donc, c'est quelque chose que je recommande autant aux ados qu'aux adultes. Parce qu'il y a un côté de nourrir la conversation avec les jeunes, s'attarder à qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de l'intérêt. Et aussi, ça permet aux adultes de replonger dans cette période de vie qui est si remplie, si chargée.
Et si intense, oui, oui. Alors,
intense, tout à fait.
Oui.
Et le directeur de la collection, Maxime Mongeon, je suis tombée sur une entrevue qu'il avait faite en 2020 avec la revue Les Libraires. Et il mentionnait « Certains adultes s'étonnent d'aimer autant ces textes de jeunesse qui sont parus. Peut-être est-ce parce que la littérature n'a pas d'âge. » Je trouve que ça permet de réfléchir de telles paroles.
Ouais.
Je me permets de faire deux courts extraits, parce que c'est ce qu'on fait au liseur public. On surprend les gens avec des extraits de livres, l'équivalent de bande-annonce.
Mm-hmm.
Donc, deux courts extraits de textes qui sont dans le collectif. On y va en premier avec Marc-André Dufour-Labbé, « 15 ans en une seconde ». Je me sens pas mal transparent depuis une semaine. Mathis ne me parle plus, puis l'équipe de basket au complet me crache dessus. Changer d'école serait plus facile que de m'expliquer avec Mathis. Hey, c'est pas fou ça, changer d'école. Un deuxième extrait, on est avec Sept Mila de Frédéric Wolff.
Mm-hmm.
On est dans un tout autre registre d'émotions. Ça fait 30 minutes qu'on parle, de rien de tout, de rien du tout. J'avoue même que j'en rate des bouts. Trop occupée à regarder tes lèvres bouger. Je hoche la tête quand je crois que c'est ce que je dois faire. Je souris pour souligner que je suis intéressée. Et crois-moi, je le suis. Mais avec toi devant moi, je me découvre un TDA soudain. Je pourrais pas résumer ce que tu viens de me dire sur ton prof de philo, même si j'ai entendu tous les mots. Par chance, il y aura pas d'examen après notre rencontre.
Oh wow, c'est bon, ça donne envie de le lire.
Oui, vraiment.
Ouais.
C'est un bonbon des derniers mois, je le recommande fortement.
Alors, il nous reste trois minutes, Marie-Josée, pour deux livres.
J'accepte le défi. Petite douceur de Véronique Grenier,
ouais.
qui est paru à la courte échelle au mois d'avril. On est avec le deuxième recueil de poésie que cette autrice offre pour la jeunesse. C'est vraiment un livre qui fait du bien, qui fait réfléchir quand les journées sont trop lourdes, comment on peut aller chercher de l'aide, comment on peut prendre le temps de s'arrêter et réfléchir à pourquoi on est dans cet état-là, c'est vraiment, vraiment très fort. Je vous offre un extrait rapide.
Oui.
N'est pas clair. Ce que je ressens, comprends, apprends, là, tout de suite, maintenant. Mais ça a à voir avec un lousse que je peux me donner. D'autres manières d'exister qu'en jardin carré.
C'est beau. Bon,
autant adulte, enfant, il y a un côté faire œuvre utile, il y a des recommandations, des ressources offertes à la fin du recueil pour si les gens se sentent mal. Donc, c'est recommandé pour les 13 ans et plus. Je pense qu'il n'y a pas de limite d'âge pour l'apprécier et se sentir interpellé.
Et on l'est, définitivement.
Merveilleux. Et ensuite, rien de mieux que des enquêtes. On est dans émotions complètement distinctes. On a la collection coupable de Karine Paquin, parue chez Les Malins. Il y a déjà 3 titres qui sont dans cette collection. Karine Paquin, à la base, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a une feuille de route vraiment impressionnante, autant avec des albums jeunesse que des séries premiers lecteurs, des romans ados. Et là, avec la collection coupable, elle a décidé de nous faire frémir, nous angoisser. On a le narrateur Sergent Serge Barkley qui nous transporte dans ses souvenirs d'enquête passée. Donc, il nous amène dans une nuit d'insomnie et il nous dit « Là, venez avec moi, je vous amène, vous allez autant vivre l'interrogatoire que les échanges de textos entre la victime et les personnes suspectées d'avoir commis son meurtre. » Donc, on est dans du 130 pages, c'est efficace, c'est des courts chapitres, c'est une forme vraiment variée qui fait qu'on ne voit même pas la lecture passer. On n'est pas dans un polar de 400 pages, mais on est dans un livre de 130 pages qui est efficace, bien ficelé. Puis il faut être alerte tout au long de la lecture parce qu'il y a des indices qui sont dissimulés pour trouver le ou la coupable de cette fameuse affaire. Donc, le plus récent titre, c'est l'affaire Martin Tremblay qui est paru à l'automne passé. Et là, en ce moment, je vois que le temps file et j'ai pu t'avaler des 3 livres, donc je suis très fière.
Bravo! Mais c'est un beau défi relevé, Marie-Josée, avec un court délai. Je vous remercie parce que c'est vraiment 3 livres intéressants, plus que 3 dans le fond, parce que le dernier, c'est une série, il y en a 3 déjà. Merci beaucoup, beaucoup, Marie-Josée. Moi, j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain salon ou dans un événement qui met les livres en valeur auprès des jeunes et des moins jeunes. Votre mission est essentielle. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, Marie-Josée. Merci.
Merci beaucoup, Marie. Bravo pour l'émission aussi.
Merci, au revoir.
Je m'appelle Élie, j'ai 11 ans et j'aime lire Les yeux du dragon de Stephen King parce qu'il y a beaucoup d'intrigues et de suspense.
Avec nous. Après cette courte pause, je reçois Julie Bernier et ses élèves de 6e année de l'école Wilfrid Pelletier, Laetitia Kial, Sonia Bouraoui et François Chevalier. C'est Sarah Degonze qui investit la tribune littéraire de grandes personnes et il y aura des actualités littéraires. À tout de suite! Bienvenue à cette seconde partie d'Images et mots à voix haute.
Dis-moi ce que tu lis.
Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui œuvrent tout autour du monde de la littérature jeunesse et aussi des enfants qui la lisent. Aujourd'hui, j'accueille avec plaisir Julie Bernier, enseignante en 6e année à l'École internationale Wilfrid Pelletier, et 3 des élèves de sa classe, Laetitia Kial, Sonia Bouraoui et François Chevalier. Bonjour à vous 4.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à Images et mots à voix haute. Julie, qu'est-ce qu'on peut dire de l'école Wilfrid Pelletier?
En fait, l'école Wilfrid Pelletier fait partie du Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île. C'est une très grosse école. Nous sommes une école internationale.
Ouais.
Avec en moyenne, là, d'une année à l'autre, entre 1200 et 1300 élèves au total.
Primaire, ça, c'est une école primaire.
Exactement.
C'est énorme comme école. Oui,
oui, une école primaire séparée en 2 bâtisses. Donc, d'un côté, on a préscolaire et première année. L'autre côté, de 2e à la 6e année. Et c'est une école primaire internationale, mais de quartier, ce qui veut dire dire que les élèves du quartier viennent forcément à l'école internationale.
Mm-hmm.
On a environ une vingtaine de places ouvertes pour le reste du centre de service. Sinon, tous les autres enfants qui sont dans le quartier viennent à l'école internationale.
C'est la particularité de l'école publique Wilfrid Pelletier.
Exactement.
Voilà. Donc, fonctionner avec des modules de recherche, parce que c'est une école internationale, ça vient avec ce genre de pédagogie-là.
Oui, exactement. Donc, pour chacune des années scolaires, on a 6 modules de recherche qui sont répartis en différentes grandes thématiques dans l'école. En fait, des modules de recherche, c'est vraiment comme des projets. On peut considérer que l'école internationale, en plus d'avoir comme objectif de développer des citoyens responsables, des futurs citoyens de demain, c'est de la pédagogie par projet. Donc, on fonctionne par projet pour les divers apprentissages.
Okay.
On appelle ça des modules de recherche.
D'accord. En mars et en avril, vous avez travaillé sur le module art et divertissement culturel. Ça s'est terminé le 17 avril, mm-hmm. lors d'une grande exposition à l'école. Et tes élèves ont choisi divers sujets pour faire leur projet de fin de primaire.
Exactement.
Comment ça s'est passé le 17 avril?
Oui, en fait, le 17 avril, à chaque année, à peu près à ce moment-là de l'année, là, c'est toujours au mois d'avril, mi-avril, on a l'exposition. L'exposition, c'est le grand projet de fin de primaire. Toutes les écoles internationales ont ce qu'on appelle l'expo.
Ouais.
Et donc, c'est la possibilité pour les élèves de démontrer tous leurs acquis du programme international. Donc, c'est leur projet de fin de primaire. Et au terme de plusieurs activités cette année, la grande thématique choisie par les élèves et voté par les élèves, étaient les arts et le divertissement culturel. Et donc, chaque équipe a dû faire une recherche, élaborer un sujet, puis faire une recherche sur ce sujet-là.
Alors, on va donner la parole aux enfants parce qu'ils ont fait cette exposition-là. Qu'est-ce que vous avez présenté, vous trois? Commençons avec François. Qu'est-ce que tu as présenté, toi, durant cette exposition-là?
Pendant l'expo, moi, j'ai présenté les différentes perspectives d'une création musicale.
Une création musicale.
On avait un très beau mentor qui nous aidait à créer une musique. Et on posait des questions sur cette musique et on disait qu'est-ce qu'on peut ressentir. Ça pourrait réduire le stress, réduire l'anxiété, ou ça pourrait donner des effets positifs, des effets négatifs.
Mm-hmm.
Et ça peut provoquer des sentiments dans toi.
Oui, parce que la musique, ça a une influence sur comment on se sent.
Ouais.
Merci, François. Puis toi, Sonia, sur quoi ça portait, toi, ta présentation?
Moi, mon expo, elle a porté sur l'art et le divertissement culturel.
Ouais.
Et l'art et le divertissement culturel, c'est comme l'art qui dénonce quelque chose. Par exemple, la liberté d'expression. Si, par exemple, on ne peut pas parler et on va faire un dessin en rapport avec ça pour exprimer ce que tu penses, sans parler, mais en dessinant.
En faisant, donc, on a un message à passer.
Ouais.
Ça sert à ça. D'accord, merci. Puis toi, Laetitia?
Alors, moi, mon sujet, c'était l'impact des graphismes des jeux vidéo.
Ouais.
Donc, moi, je parlais du joueur, genre, c'est quoi l'impact des graphismes sur le joueur, comme les effets négatifs.
Ouais.
Et, les pertes de contrôle et tout. Et c'est ça, il y avait plein d'autres sous-sujets.
C'est vraiment intéressant.
Mm-hmm.
Julie, on est dans une émission sur la littérature. Parlons lecture. Il n'y a aucune équipe qui avait sélectionné un sujet en lien avec la littérature en vue de l'exposition. Donc, avec ta collègue, vous avez décidé d'organiser des combats littéraires sur 6 semaines pour permettre aux élèves de constater que la littérature, c'est aussi une forme d'art. Quels sont les albums qui ont été lus en lecture interactive? Puis c'est quoi les thématiques que vous avez abordées?
Oui, effectivement, on s'est rendu compte que nos élèves n'avaient pas ressorti la littérature comme étant une forme d'art. Puis ça, c'était commun à toutes les classes de 6e année. Donc, on a voulu un petit peu leur faire ressortir en quoi la littérature est une forme d'art aussi.
Mm-hmm.
On a commencé par 3 semaines sur des auteurs. Donc, on avait, la première semaine, on a lu 2 albums de Jacques Goldstein, donc Les étoiles et croquis.
Ouais.
Oui. La deuxième semaine, on a lu 2 albums d'André Poulain, Pablo trouve un trésor.
Ouais.
Puis le
deux
deuxième...
garçons.
Oui, 2 garçons et 1 secret, exactement.
Ouais.
La troisième semaine, c'était 2 albums de Thierry Dedieu. Donc, on avait Au secours des Zoulou-Papous et Clown d'urgence.
OK, on va faire une pause juste là, tu sais, parce que quand même, pauvre toi. Et moi, j'aimerais ça qu'on revienne aux enfants parce qu'on va y aller avec ces 3 auteurs-là. La première semaine, on vous a lu Les étoiles et Croquis. Lequel a gagné entre les deux? Parce qu'il fallait déjà choisir entre Les Étoiles et Croquis François. C'est-tu Les Étoiles ou Croquis qui a gagné?
C'est Les Étoiles.
OK. Puis toi, c'est-tu pour Les Étoiles que tu avais voté?
Ouais, c'était pour Les Étoiles.
OK. Pourquoi toi, tu as voté pour Les Étoiles?
Parce que ça a compté une vie de deux enfants de différentes religions, ouais, de croyances. Une était musulmane et l'autre, je pense...
Juif,
c'est ouais, ça. Les parents, ils voulaient que leur enfant soit comme en couple et qu'il fasse une vie avec la même religion.
Mm-hmm.
Donc, les deux, ils étaient passionnés par l'espace et ils voulaient exercer ce métier,
ouais,
les deux main dans la main. Mais vu que leurs parents n'étaient pas trop d'accord, la fille musulmane, ses parents ont décidé de déménager.
Tout à fait, ouais.
Et je pense quelques ans après...
Ouais, quand ils deviennent des adultes.
C'est
hein,
ça.
Ouais.
Ils se sont retrouvés dans un...
Une exposition, en fait un congrès.
Un congrès ouais, d'astronomie.
Oui.
Et la fille, je pense qu'elle avait renoncé à la religion.
Mm-hmm.
Elle avait enlevé son voile.
Oui.
Et le garçon avait enlevé son chapeau que les Juifs portent.
Oui.
La baissa à la kippa.
Oui.
Et ils ont fait l'astronomie, les deux ensemble.
Et ils sont devenus des amoureux.
Je pense.
Oui, alors le message de Jacques Goldstein là-dedans, c'est... Attention, la religion, ça peut être un frein, un obstacle à des amitiés ou à de l'amour. Alors, toi, tu as voté pour ça. Dans les livres de André Poulain, il y avait Deux garçons et un secret, Pablo trouve un trésor. Je te donne la parole, Sonia. Lequel a gagné entre les deux?
C'est Pablo trouve un trésor qui a gagné.
OK, pourquoi?
Je pense que c'était parce qu'à la fin, on pensait que la personne leur avait volé tout ce qu'ils avaient trouvé dans la décharge, mais que depuis le début, il était caché dans sa bouche et c'est pour ça qu'il ne parlait pas.
C'est l'histoire de quoi, Pablo trouve un trésor?
Alors, c'est comme une fille et un garçon,
oui,
qui habitent dans comme un bidonville. Et ensuite, chaque jour, ils vont à la décharge,
mm-hmm,
pour aller chercher du plastique et des matériaux qui pouvaient être réutilisés,
oui,
qui peuvent être utiles. Et là, du coup, ils devaient aller chercher à la décharge à chaque jour. Et là, le garçon... soudainement, il trouve comme une chaîne en or.
Mmh.
Et il y a comme quelqu'un qui s'appelle le Grand Sal, que lui, à chaque fois, il vient voler ce qu'il trouve les gens.
Mmh.
Et du coup, à la fin, ils avaient tous trouvé comme du plastique et des choses. Et le Grand Sal est venu et il a pris tout ce qu'ils avaient. Et là, on pensait que le garçon, il n'avait plus la chaîne.
Mais c'est ça qui était dans sa bouche, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et là, après, il ne voulait plus parler. Comme, et là, après, la fille, elle disait « Ah, mais tu aurais dû me donner la chaîne quand je t'avais dit de me la donner. » Mais en fait, depuis le début, la chaîne a été dans sa bouche et c'est pour ça qu'il ne parlait pas.
Voilà.
Et moi, ce que j'ai aimé dans l'histoire, c'est que le garçon, lui, il ne voulait pas vraiment trouver des matériaux. Lui, il voulait plus trouver des choses qui sont comme des loisirs et c'est ça. Et la fille, elle voulait juste... Elle avait un objectif qu'elle suivait, comme elle voulait sa moitié de poulet pour le dîner. Alors, elle cherchait que les matériaux intéressants.
D'accord. Et Laetitia, parle-nous, toi, de les livres de Thierry Dedieu. Il y avait Au secours des Ouloupapous et Clown d'urgence. Lequel a gagné?
C'est Clown d'urgence.
OK. Puis est-ce que c'est pour ce livre-là que tu avais voté?
Oui.
Et pourquoi?
J'ai voté Clown d'urgence parce que, en fait, le Clown d'urgence, c'est un livre où, genre, il y a un clown,
ouais,
qui va dans un hôpital pour les enfants malades, qui essaie de les faire rire et tout.
Ouais.
Et j'ai beaucoup aimé le livre parce que, genre, les clowns, d'habitude, on les trouve plutôt dans des parcs d'attractions, etc. Mais là, genre, c'est vraiment bien pensé, genre, pour prendre soin des enfants, pour les faire rire. Et j'ai aussi aimé la fin de l'histoire quand l'enfant le plus malade, grâce au clown, a été guéri grâce à lui.
Donc, c'est vraiment son
but. Vraiment devenus des meilleurs amis. Et genre, maintenant, c'est eux deux qui vont dans des hôpitaux pour les enfants malades.
OK. Et c'est donc les deux qui s'investissent,
ouais,
auprès des enfants,
ouais,
malades.
C'est ça.
Super. Alors, donc, on a déjà trois livres gagnants.
Okay.
Et il nous restait trois semaines.
Oui.
Alors, Julie, quelles sont les trois autres thématiques?
Oui, pour les semaines suivantes, on a choisi des thématiques. Donc, on est allé avec la thématique de la guerre, avec Plume et prise de bec et Pawpaw t'es mort.
Oui.
Par la suite, on est allé avec une thématique qui est en lien avec l'inter-iconicité.
Oui.
Donc, la présence d'œuvres d'art dans la littérature.
L'art dans l'art, dans les livres,
exact,
c'est ça.
Avec Atatürk premier.
Et les tableaux de Marcel,
exact,
de Anthony Brown.
Oui.
OK.
Et finalement, deux albums sans texte, Miroir et Chaque petit geste.
OK. Alors, on a un petit défi de temps parce que le temps file à une vitesse qui nous échappe. Alors, je vais revenir à François. François, parlons des deux livres sur la guerre, Plume et Prise de bec, puis Pawpaw t'es mort. Lequel a gagné?
C'est Pawpaw t'es mort.
Pawpaw t'es mort, de Marie-France Hébert. Ça, c'est chez les 400 coups. Puis d'ailleurs, je mets tous les liens sur le site pour les auditeurs. Est-ce que tu avais voté pour Pawpaw t'es mort?
J'avais voté pour Pawpaw t'es mort.
Pourquoi t'as aimé ça, ce livre-là, toi?
Ce livre racontait de la vie d'un jeune garçon qui était un petit peu matrixé par les jeux vidéo.
OK.
Il voulait que jouer aux jeux vidéo et, 7 jours sur 7, quand il allait à l'école, il pensait juste que quand il allait revenir le soir, il allait jouer aux jeux
Mais
vidéo.
Mais il est confronté à la réalité à un moment donné, hein, c'est ça.
Ben, il faisait des crises parce qu'il voulait jouer aux jeux vidéo. Mais dans le jeu qu'il jouait, il racontait une vie d'un garçon que lui, c'était... il était dans le jeu.
Oui.
Et lui, sa famille, il était pauvre. Il devait trouver de la nourriture. Et là, son père, il part et il revient plus.
Et là, c'est vraiment la guerre. Je comprends pourquoi tu as voté pour lui. Je demandais à Sonia très, très, très rapidement de me dire, entre les tableaux de Marcel et Atatürk premier, lequel a gagné?
C'était les tableaux de Marcel.
Les tableaux de Marcel, parce que les livres d'Anthony Brown. Dans ce livre-là, Marcel, c'est un chimpanzé. C'est ça, hein?
Oui.
Oui, puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres d'art qui sont présentées dans ce livre-là. Merci, Sonia. Et Laetitia, dans les albums sans texte, Miroir ou Chaque petit geste, lequel a gagné?
C'est Chaque petit geste.
Oui, de Martha Bartolj, des 400 coups aussi. D'accord. Alors là, vous avez vraiment discuté, vous avez beaucoup réagi, vous avez travaillé l'appréciation. Puis de tous ces livres-là, il y a eu un gagnant chaque semaine. Il y en a un qui a été choisi à la fin. C'est lequel? Le grand gagnant du combat des livres. Laetitia?
J'ai oublié son titre.
Oh, mais alors, Sonia, est-ce que tu peux l'aider?
Moi, je pense que c'est Pawpaw t'es mort.
Pawpaw t'es mort, c'est celui-là?
C'est le préféré de nos trois présents aujourd'hui, mais de la classe, c'était Pablo trouve un trésor.
Oh, quand même, qui est un très bon livre d'André Poulin aussi.
Oui. Ça a été très serré.
Oui, hein? Mais c'est difficile parce que tous des bons livres, vraiment. Et là, après le combat des livres, parce que c'est terminé maintenant, là, vous allez avoir à choisir un roman, vous allez le lire en lecture individuelle pendant le prochain mois. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin, Julie?
On va faire une espèce de cercle littéraire où chaque élève va discuter de son appréciation de sa lecture, puis va pouvoir partager là, avec les autres élèves de la classe.
Alors, c'est formidable parce que vous allez discuter encore ensemble, vous allez faire découvrir aux autres le livre que vous avez lu, puis vous allez découvrir plein de livres en même temps. Alors, et ça va tellement vite, hein, une entrevue à la radio, ça va beaucoup plus vite qu'on voudrait. Oui. Mais moi, je voudrais vous remercier tous les trois, Laetitia Kial, Sonia Bouraoui et François Chevalier. Je vous souhaite une belle fin d'année scolaire, une fin de primaire à votre goût, puis beaucoup, beaucoup de plaisir pendant l'été qui s'en vient. Merci, Julie.
Merci à toi, Marie.
Merci de proposer à tes élèves des défis de lecture stimulants, des auteurs, des autrices qui les font réfléchir et imaginer un monde meilleur. Et surtout, merci d'avoir relevé le défi et accepté mon invitation de venir à la radio avec tes élèves. C'était tout un défi.
Vraiment.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci, Laetitia.
De rien.
Merci, Sonia.
De rien.
Merci, François.
De rien.
Au revoir.
Tribune littéraire. lire de grandes personnes.
Tout au long de la saison, des gens du monde littéraire assurent tour à tour cette chronique et partagent avec nous un coup de cœur, un livre jeunesse ou un genre qui les a marqués. Aujourd'hui, c'est Sarah de Gonze qui investit cette tribune littéraire. Bonjour Sarah.
Bonjour Marie.
Je vais vous présenter Sarah. Avant de vous céder le micro, vous êtes franco-québécoise. Vous êtes une grande amoureuse de littérature jeunesse. Vous en avez fait même votre métier puisque vous êtes éditrice et responsable marketing aux éditions Éditis Canada. On vous a découverte comme autrice avec la trilogie Anya, publiée aux éditions Fides. Vous êtes également l'autrice de l'album Les ballons d'eau, une histoire d'hypersensibilité aux éditions de La Bagnole. Et plus récemment, vous avez publié Là où naissent les papillons. C'est votre premier roman destiné aux jeunes adultes chez Grund Québec. Dans vos livres, vous abordez les émotions, grandes et petites, la quête et l'acceptation de soi, le féminisme également. C'est des sujets qui vous sont chers. Et c'est un plaisir de vous confier cette tribune littéraire. Sarah, on vous écoute.
Merci, Marie. Quand vous m'avez invitée à participer à cette chronique littéraire, j'ai bien évidemment accepté avec grand plaisir. Mmh. Parler littérature jeunesse, choisir une œuvre et la présenter, on m'offrait une tribune bien trop belle pour l'amoureuse de littérature jeunesse que je suis. Mais très vite, j'ai déchanté. Présenter une seule œuvre? Comment choisir une seule alors qu'il y en a de si belles ici, au Québec? C'était un grand piège. Est-ce que je devais me fier au thème du livre, aux illustrations, aux créateurs? Est-ce que j'allais présenter un livre qui m'avait marqué enfant? Une publication récente? Une que j'avais aimé lire et relire avec mes enfants? Mon petit hamster a eu de quoi s'occuper un bon moment. Mais mon choix s'est porté sur la série d'albums illustrés Bizarre Moi, publiée chez Grund Québec. Mmh. J'ai découvert cette série lors d'un salon du livre. J'ai arpenté les allées. Et les couvertures m'ont immédiatement attirée. Et vous allez voir pourquoi, Marie. Parce que, bon, évidemment, elles sont vives, elles sont colorées. Mais surtout, je reconnaissais le style de l'illustratrice. Une illustratrice que j'adore et que je connais très bien, puisqu'elle a illustré mon premier album, Les ballons d'eau.
Élodie Duhamel,
ouais. Qui est une illustratrice aussi créative que talentueuse, qui apporte dans ses dessins beaucoup de vie, de diversité et d'humour. Mm-hmm. Mais évidemment, je ne peux pas vous parler de cette série d'albums sans vous parler de l'autrice, ouais, qui est aussi talentueuse et créative, qui est Geneviève Simard. Mm-hmm. Donc, Geneviève Simard écrit autant de la Green Romance que des histoires pour la jeunesse. Et ce que j'aime particulièrement dans son écriture, c'est la poésie qu'elle parsème dans ses mots. Ces phrases riment, ce qui apporte une belle oralité à ces histoires. Mmh. Et le duo que forment ces deux créatrices ont donné une série absolument délicieuse et je suis vraiment ravie de vous la présenter aujourd'hui. Donc, Bizarre Moi, c'est une série qui aborde les différences. Mais pas seulement. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ces histoires, c'est qu'elles normalisent les différences et les montrent de manière hyper positive pour amener l'enfant à percevoir sa propre différence comme une particularité positive de sa personnalité. Et c'est d'ailleurs ce que l'éditeur met de l'avant en C4 avec cette accroche, un album tout en bienveillance qui fait l'éloge de la singularité et inspire les petits comme les grands à être fiers de ce qui les rend uniques. Mm-hmm. Parce que oui, nous sommes tous et toutes uniques. Et parfois, on essaie de nous mettre dans des cases, de rentrer dans un moule, ce qui ne correspond pas. Donc, ce ne sont pas tous les enfants qui aiment parler fort, courir de partout. Nos différences nous rendent uniques et c'est l'essence même de cette série. Mmh. Donc justement, chaque album présente un personnage différent et c'est ce que j'aime particulièrement dans le style d'Élodie Duhamel et dont je parlais plus tôt, c'est qu'elle inclut la diversité dans ses illustrations. Donc dans le premier album de cette série qui s'intitule « Les drôles de choix d'Anna », on découvre une petite fille pleine de vie qui exprime sa créativité et sa personnalité haute en couleurs à travers un style vestimentaire complètement décalé par rapport au style vestimentaire plus traditionnel de ses amis. Et elle le dit elle-même dès le début de l'histoire, « Le matin, j'enfile une robe verte par-dessus un chandail à manches longues, couleur cacahuète, en bas un tutu avec des collants à gros pois lilas, puis sur ma tête une douzaine de petites couettes, pourquoi pas ?» Alors bien évidemment, sa famille, comme son entourage, s'interroge, certains même la critiquent, mais la jeune Anna, elle s'en moque et pousse même le vice en disant « Moi, c'est de ressembler à tous les autres qui me fout la trouille. Mmh. » Parce qu'au-delà d'aborder la différence, ce livre met de l'avant la confiance et l'estime de soi. Le personnage ne se remet pas en question, sa confiance n'est pas ébranlée malgré le regard parfois moqueur des autres. Et ça fait du bien à lire. Dans le second album, qui s'intitule « Les drôles de solutions de Simon », le jeune Simon est ce qu'on appelle un enfant hyper créatif. Son imaginaire est si débordante qu'il est incapable de le mettre sur pause. Il trouve des idées sur tout et pour tout. Et il le dit d'ailleurs très bien dans le livre « Dans ma tête, ça va vite, vite, vite. Mon inspiration n'a aucune limite. » Donc, sa grande expressivité dérange parfois son enseignante, qui aimerait peut-être qu'il ne s'installe pas tête en bas sur sa chaise pour se concentrer, ou bien sa voisine qui lui conseille de cesser de tout remettre en question et qui lui répond « c'est comme ça » ou « c'est ainsi ». Mais ces réponses posent souci à notre protagoniste qui reconnaît parfois être un peu bruyant ou turbulent, mais qui ça ne le rend pas méchant.
Et si je vous proposais un autre défi en 30 secondes de nous proposer ce troisième album de la série?
Le troisième album est peut-être celui qui a la notion d'être bien avec soi-même la plus marquante, mm-hmm. puisque c'est un enfant qui est très introverti.
Ouais.
Et justement, l'introversion, c'est un sujet qui est plutôt rare en littérature ouais. jeunesse. Et il le dit d'ailleurs dans son histoire, il me dit « ça ne me rend pas malheureux d'être solitaire, bien au contraire, passer du temps seul me permet de développer mon imaginaire ». Donc vous l'aurez compris, dans cette série d'albums, on aborde des thèmes, donc l'extrinsicité, le fait d'être hyperactif, le fait d'être introverti. Et c'est justement ce que j'ai aimé dans cette série, c'est que autant le texte que les illustrations nous amènent ailleurs mmh. et nous montrent en fait qu'on peut être différent.
Et être heureux.
Et être heureux. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une série qui est importante pour ça.
Génial. Alors, merci, Sarah, d'avoir accepté notre invitation. Au grand, grand plaisir. Vraiment. Et à une prochaine fois.
Avec grand plaisir. Merci.
Merci.
Bonjour, moi je m'appelle Charlie, j'ai 10 ans et j'adore lire les mangas parce que ben, c'est beau, c'est bien dessiné et c'est ça.
D'autres idées de lecture et de sortie littéraire. Sur le site de l'émission, on vous met tous les liens vers les événements et activités mentionnées. Dimanche prochain, le 18 mai, à Marie raconte, je lis La tasse de Gilles de Catherine Trudeau et Chin Leng des éditions La Pastèque. C'est une histoire qui est aussi une ode aux objets qu'on garde précieusement, ces souvenirs qui deviennent des trésors. À travers l'histoire d'une tasse, autrefois fabriquée par un oncle décédé et que la narratrice a conservée, ce livre aborde délicatement la question du deuil. Les souvenirs d'enfance mettent subtilement en lumière, le lien durable malgré la perte et le passage des années. On en écoute un extrait. Autre point de vue de la cuisine, de haut maintenant, face au mur gris pâle et à la fenêtre. La petite fille est toujours sur sa chaise, à la table recouverte d'une nappe blanche. Elle dépose sa tasse sur la table. Devant elle, il y a une serviette de table en tissu blanc, une assiette contenant un croissant, le sucrier ouvert, le pot à lait, la théière, la tasse grise de son papa et le journal ouvert qu'il est en train de lire, qu'il tient, lui, de la main gauche. Mais lui, on ne le voit pas. On dirait qu'on est à sa place. La narratrice continue. « Mais ma tasse, elle, était petite. » C'était une réplique de celle de mon père, mais d'une autre couleur. La sienne était grise, la mienne, couleur sable. Son grand frère, Gilles, l'avait fabriquée pour moi, à l'aide d'un tour et d'argile. Gilles, c'est donc le frère de son père, l'oncle de la narratrice. Félicitations à Geneviève Després, dont l'album « Si j'avais su », publié au 400 coups, a été sélectionné pour le prix des Incorruptibles en France. On croise les doigts. IBI Canada a annoncé qu'Isabella Fassier a remporté le prix du livre d'image du Canada Elisabeth Mrazik-Clever 2024 pour Garbage Goals, écrit par Dorson Plourde et publié par Kids Can Press. Le jury a également sélectionné deux livres d'honneur parmi la liste des 10 finalistes, dont La tasse de Gilles, justement, illustré par Chin Leng et écrit par Catherine Trudeau, publié à La Pastèque. Félicitations donc à Catherine Trudeau et Chin Leng. Du 14 au 17 mai se tiendra la deuxième édition du Salon du livre de Granby au Centre Notre-Dame, 270 rue principale à Granby. Du 21 au 25 mai, ce sera la quatrième édition du Festival littéraire de Lac-Brome au Théâtre de Lac-Brome, 9 Chemin du Mont Écho, Lac-Brome ou Knowlton, c'est pareil. Le président d'honneur, c'est Jacques Goldstein et la marraine est Dominique Fortier. Le prix pour le concours d'écriture jeunesse sera remis samedi le 24 mai. Du jeudi 22 au dimanche 25 mai aura lieu le 49e Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue. La thématique cette année, c'est « Autrement ». Les activités ont lieu au complexe sportif des Jardins, 182 10e Avenue Est à Amos. C'est samedi 24 et dimanche 25 mai que se tiendra le Salon du livre du Grand Lévis au complexe Deux-Glaces-Onco à Saint-Romuald, Lévis. Parmi les auteurs jeunesse présents, Colombe Dufour, qui est présidente d'honneur, Dominique Casavant, Alexandre Côté, Madeleine Grenier et France Légaré. En terminant, soulignons quelques sorties de livres. La Courte Échelle célébrait le printemps à la librairie Raffin sur la rue Saint-Hubert à Montréal le 3 mai dernier et présentait ses trois nouveautés. Wash de Julie Massy, illustrée par Mathilde Philippi. Les aventures de Lola Tamia de Pierrette Dubé, illustrée par Laura Auroch-Denis. Oui, non, peut-être, de Lou Beauchesne, illustré par Agathe Bray-Bourré. Chez les 400 coups, on annonce une nouvelle édition de Par le petit loup de Claudie Stanquet, illustré par Barou. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs, l'autrice aux multiples chapeaux, Pénélope Jolicoeur, Marie-Josée Gontier pour sa chronique Coup de cœur de lectrice, Julie Bernier et ses élèves de l'école Wilfrid Pelletier, Laetitia Kial, Sonia Bouraoui et François Chevalier, Sarah de Gonse pour la chronique Tribune littéraire de grandes personnes, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie au montage et à la mise en onde et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes. On se retrouve dans deux semaines.